Alright, je pense qu'on va passer quelques minutes très, très agréables avec notre prochain invité. Si vous avez des questions pour lui, on va vous le présenter, bien entendu. Mais si vous avez des questions pour lui, au 418-971-101, vous nous écrivez par texto et ça va nous faire un plaisir de relayer vos questions à Benoît Letarte, qui est responsable de la Fondation et des communications du Collège des Hauts Sommets. Salut Benoît!
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à toi de t'être pointé. Moi, ça fait presque 2 ans que j'entends parler de votre collège. J'en ai même parlé à la mère de mes enfants qui, pour l'instant, dit « je vais y réfléchir, je vais y réfléchir ». Quand Audrey m'avait parlé de votre collège l'an passé, j'avais été faire un tour sur votre site web. Je trouvais ça franchement intéressant et franchement rafraîchissant, cette idée-là d'avoir des enfants au collège qui peuvent... former un genre de confrérie pendant plusieurs années, je trouvais
le principe très cool. Mais des jeunes qui auraient de la misère dans notre système d'éducation régulier. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'il n'y a pas grand monde, on dirait, de plus en plus. Mais quand j'en avais parlé l'an passé, je me rendais compte qu'il n'y a pas tant de gens qui étaient au courant qu'on avait ça pas loin. Puis que même si tu viens, mettons, de Montréal, ben tu peux y aller à ce collège-là. C'est des gens d'un peu partout au Québec, tu sais.
Fait que Benoît Letarte, parle-nous du Collège des Hauts Sommets. Qu'est-ce qui fait en sorte que Audrey m'en parle, puis j'ai le goût d'y aller? Moi-même.
Le Collège des Hauts Sommets, c'est une petite pépite de la région. Hein. On est à Saint-Tite-des-Caps. C'est vrai, on est peu connu. On n'est pas un institut. Ça fait pas des années non plus qu'on existe. Hein. Ça a été fondé en 2001. On est devenu une coopérative de travailleurs en 2003. C'est une des premières choses qui a fait qu'on a pris cette mission-là. C'est que nous, chaque enseignant, chaque membre du personnel laisse une partie de son salaire pour continuer, pour permettre à l'école de continuer.
Ah oui, tu laisses une partie de ton salaire à l'école pour que ça puisse profiter pour le milieu de vie des élèves.
Oui.
Wow, OK.
C'est un don de soi pareil. Hein?
Vraiment?
Oui, absolument. Puis en même temps, ça fait que en tant qu'employé, en tant que membre du personnel, tu n'as pas le choix d'être ultra impliqué. Tu veux que ça fonctionne, tu veux qu'on continue à aller de l'avant, tu veux qu'on fasse la différence dans la vie de ces jeunes-là. Donc ça, c'est une des premières choses qui nous distingue. La chose qui nous distingue aussi, vous le disiez en intro tantôt, on a une résidence scolaire.
Ouais.
Il reste 7 écoles au Québec avec des résidences scolaires. Mmh. Puis nous, on est la seule école qui a une résidence scolaire qui a un peu cette vocation-là d'aller vers les jeunes qui ont plus de difficultés. J'aime pas le mot difficulté, je préfère utiliser le mot défi. Tu sais, on peut passer par-dessus plusieurs choses dans une vie, on peut aller chercher des outils, puis nous, on est là pour les outiller. Donc, on a une résidence scolaire, puis on est une très petite école. On est à 105 élèves en ce moment, là, pour vous donner une idée.
105 élèves. Comment ça fonctionne, le Collège des Hauts Sommets? Moi, je suis un parent, j'ai un enfant que je pense qu'il pourrait bien évoluer dans ce milieu-là. Je commence par quoi?
Le processus d'admission, il est simple et compliqué à la fois, mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi qu'on met tout ça en place. La première étape est super simple. On va sur le site. Sur le site web du collège, il va avoir un petit formulaire de 3 questions à remplir et ça arrive chez nous. Une fois que ça rentre chez nous, là, à ce moment-là, il y a quelqu'un chez nous qui va vous appeler pour un premier contact. Nous, on veut vous parler. C'est pas une question de formulaire, c'est pas des bulletins qui rentrent par la poste, on veut se parler. Première des choses, si après le premier contact, on se rend compte, OK, le jeune a vraiment des chances de bénéficier de nos services. Là, à ce moment-là, on va vous demander d'envoyer 2 questionnaires, un par le jeune, un par le parent. Bien sûr, le standard, les 2 derniers bulletins. Et vous allez être invité à visiter le collège, et c'est obligatoire.
OK.
Lors de la visite du collège, on découvre le milieu de vie, on répond aux questions des parents, parce justement, des résidences scolaires, il n'y en a plus beaucoup, on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Et ensuite de ça, on va rencontrer, il y a un intervenant qui va rencontrer individuellement la famille. Pour qu'on puisse avoir le vrai portrait. On ne veut pas interpréter des chiffres sur un bulletin. Pourquoi il y a telle difficulté? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour que vous veniez qu'à appliquer chez nous?
C'est très humain, là.
Très, très.
Et puis les jeunes qui viennent chez vous ne sont pas obligés d'aller en résidence, j'imagine?
Non, on a ce qu'on appelle les externes. Là, il y a à peu près 80 à 85 % des jeunes qui sont en résidence, puis d'autres, c'est des jeunes du coin que les parents viennent porter à chaque jour.
Okay. Donc, il y a une étude rigoureuse qui est faite sur la compatibilité des parents versus le collège, la compatibilité des enfants versus le collège.
Oui, exactement. T'sais, on veut être sûr que ce qu'on offre va faire une réelle différence dans la vie du jeune. Puis en même temps, nous, les groupes, il y a le groupe de secondaire 1 que lui, il est nouveau à chaque année, mais les autres, ils restent chez nous souvent jusqu'en secondaire 5. Donc, si on rentre quelqu'un en secondaire 2 en cours de route, est-ce que ce jeune-là va fitter dans le groupe? Mmh. Est-ce que lorsqu'il va arriver, on va réussir à garder les mêmes résultats? Parce que la dernière chose qu'on voudrait, ce soit que des jeunes perdent des services parce qu'on a rentré quelqu'un à un moment qui n'était peut-être pas opportun.
Fait là. Qu'un parent, mettons, qui se rend compte en secondaire 3 que son enfant a vraiment des grosses difficultés, pourrait tenter l'application chez vous pour qu'il finisse son secondaire de façon plus encadrée. Là.
Oui, absolument. C'est sûr que lorsqu'on essaie de rentrer en secondaire 2, 3, 4, 5, des fois, c'est un peu plus difficile parce que les groupes sont déjà formés. Il y a très, très peu de roulement d'année en année. Mais oui, il y a toujours une chance. Puis il y a une liste d'attente, là, bien sûr, là, sur lesquelles les parents peuvent se mettre. Là.
Puis là, un jeune, tu sais, je pense aux parents, mettons, qui nous écoutent puis qui se disent « Mon enfant peut tu fitter dans le collège? » Tu sais, c'est quoi les défis que la majorité de vos jeunes ont? C'est quoi les défis que vous aidez? Finalement, je sais pas si c'est une question qui est claire. Je vais pas dire difficulté.
Ben, en fait,
tu peux dire difficulté, là.
non, mais tantôt, on a dit que défi était plus beau. J'essaie de rester dans la...
ben ça, il y a pas de problème. C'est des défis ou difficultés. Mais tu sais, en fait, il y a pas une chose dans laquelle on est plus spécialisé. Puis en fait, pour avoir un équilibre dans le groupe, faut pas que tout le monde aille le même
trouble.
Ouais. On peut pas avoir juste... Si la personne a des difficultés d'apprentissage en mathématiques, ben on peut pas avoir un groupe qui a juste de la difficulté en mathématiques. Là. Ouais. Le prof de maths, il va trouver ça dur.
Ça va être complexe.
C'est ça. Fait que là, tu sais, nous, on essaie de trouver un équilibre là-dedans. On a des jeunes qui, au niveau académique, sont hyper, hyper performants, mais c'est au niveau social que, bon, ça peut être un trouble anxieux. Ça peut être, c'est ça, un peu plus en adaptation. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu sais, on joue avec un peu l'équilibre du groupe en mixant. C'est sûr que tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, bref, tous ceux qui ont des difficultés de lecture ou d'écriture, on a une très, très, très grosse expertise là-dedans.
Ah oui.
Beaucoup, beaucoup d'expertise aussi avec les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Même, on a des projets en ce moment sur la table pour avoir éventuellement dans la résidence des chambres spécialisées pour ces jeunes-là. Là.
OK. Mais quand on parle du spectre de l'autisme, il y a plusieurs catégories. Mmh. Il y a Asperger qui sont très fonctionnels. Il y en a d'autres qui sont plus intenses, qui ont un peu plus de difficultés et qu'on doit aider. Dans une classe, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs élèves?
Oui, absolument. Puis même, tu sais, comme nous, en ce moment, on a deux élèves qui ont même des chiens Mira pour les accompagner à travers leur trouble.
Ça, c'est des non-voyants?
Non, ils ont un trouble du spectre de l'autisme. C'est des chiens qui sont là un peu pour venir calmer le côté anxieux et tout ça.
Ah.
Et je vais vous conter une histoire qui est formidable. Lorsque le premier jeune, le plus vieux, c'est deux frères. Lorsque le plus vieux des deux frères est arrivé chez nous, nous, c'était une première de notre côté. Puis à un moment donné, le jeune, justement, dans son cours, il s'est senti un peu anxieux. Bref, il avait besoin de son chien à ce moment-là, qui était à côté de lui. Le jeune s'est levé, il s'est couché au sol. Le chien est venu le rejoindre.
Mais voyons donc.
Puis... il n'y a absolument aucun élève. Le prof a continué son cours comme si de rien n'était. L'élève était en classe, continuait d'entendre les enseignements. Le jeune n'a pas eu besoin d'être sorti du cours.
Il n'y a pas de jugement.
Il n'y a eu aucun jugement. C'est vraiment beau, l'unité. Le fait que ça devient une deuxième famille pour eux, fait que ils s'aiment un peu comme des frères et sœurs.
Ouais,
puis bon,
tout le monde se connaît.
Comme des frères et sœurs, ils ont quelques chicanes, mais c'est totalement gérable.
Mais Benoît Letarte, je vais te dire quelque chose. Là. Le parent des deux jeunes est à l'écoute présentement.
Oui.
Il vient de m'écrire.
Arrête!
Il me dit qu'il aime beaucoup ce collège-là. Il semblerait que le collège fait une différence dans la vie de ses enfants, puis il vous en est extrêmement reconnaissant de ce que je comprends. Là.
Mais c'est fou parce que souvent, quand on parle de notre système d'éducation, tu sais, c'est difficile de s'adapter à des jeunes qui ont des difficultés parce qu'on manque énormément de ressources. Tu sais, moi, ma tante, elle est prof au primaire, puis elle a des jeunes dans sa classe qui ont de grandes, grandes difficultés, mais elle n'est pas travailleuse sociale, elle n'a pas les études pour gérer des jeunes qui ont ce type de troubles de défis. C'est quelque chose qui devient difficile parce que tu te ramasses avec des grandes classes où c'est pas bon pour le jeune, c'est pas bon pour toi non plus comme enseignant, c'est difficile pour les autres élèves qui, eux, sont à un rythme peut-être un peu plus régulier. Fait que de voir que la possibilité d'avoir une école, un collège qui s'adapte vraiment aux jeunes, je trouve ça tellement le fun, là.
Oui, puis en fait, le côté souvent qu'on entend, il manque de ressources ou tout ça, puis en ce moment, il y a un réel manque de ressources en éducation pour plusieurs raisons. Nous, une des forces du collège, c'est qu'il y a toujours deux adultes dans la classe. Il y a l'enseignant et il y a l'intervenant de niveau. Et ils n'ont pas le même rôle. L'enseignant, lui, il rentre, il enseigne. c'est sa job, puis il livre sa matière. Le jeune qui a une difficulté, le jeune qui vient perturber le cours, l'intervenant de niveau, il est là. C'est sa job. Lui, il est vraiment plus au niveau, à ce niveau-là. Donc, ça permet vraiment à l'enseignant d'être 100% là-dedans. Et ça fait que si on a un jeune qui est moins apte à avoir des enseignements cette journée-là ou qui cherche à perturber le cours, l'intervenant de niveau va tout de suite prendre les mesures et le reste du groupe va être moins impacté par ce jeune-là qui vient déranger.
J'aime ça. Parle-moi un peu de la sécurité de nos enfants qu'on envoie au collège des hauts sommets. Comment ça fonctionne concrètement, l'hébergement? Puis peut-être qu'on peut parler des coûts, là, parce que moi, je suis un gars qui aime bien savoir comment ça coûte. 418-971-101, si vous avez des questions pour Benoît Letarte. Mais commençons par la sécurité qui entoure le collège, parce que les parents ne sont pas présents, là.
Absolument. Bien, faut savoir, d'un, géographiquement parlant, où est-ce qu'on est situé, on est l'école au Québec, au Canada, et je suis prêt à défier le monde entier, qui a la plus belle vue. On est dans un rang. En fait, on devrait l'appeler le rang de la montagne. C'est l'avenue de la montagne à Saint-Tite. Ouais. On est sur le dessus de la montagne. On a la vue sur la grosse île en avant de nous.
Oh, ouais.
C'est à perte de vue. On a très, très peu de voisins. Donc, en partant, tu sais, on n'est pas dans un coin de...
C'est paisible.
C'est dans un endroit isolé. Là.
Vraiment isolé. Après ça, bon... Bien sûr, les jeunes ne sont jamais laissés eux-mêmes. Le soir, de jour, c'est les intervenants de niveau pendant la période de classe. Et le soir, ça va être les intervenants en résidence qui sont là. On a une résidence garçon, une résidence fille.
Essayes-tu de se voir des fois, les deux?
Je ne cacherai pas que oui, on a quelques amourettes de printemps. Ben, là, surtout quand le soleil ressort au printemps. Là.
Ils se parlent par les fenêtres, quoi.
Il y a quand même une distance entre les deux. Puis bien sûr, les intervenants sont là pour gérer ce genre de situation.
Wow.
Bref, il y a des intervenants en tout temps. Il y a des intervenants de nuit aussi qui sont là. Donc, les jeunes ne sont jamais laissés à eux-mêmes. Il y a énormément de caméras. Puis... sur le terrain de l'école, bon, il y a un skatepark. L'hiver, on a un snowpark. On a deux terrains de volley. On a un terrain de basket. On a une patinoire. On a un parcours à obstacles qu'on appelle le parcours du persévérant, qui est un peu style Ninja Warrior. Là.
Ouais.
Après ça, dans la salle commune, il y a un salon étudiant. On a une salle de musique. On a un technicien en vie étudiante qui est là aussi pour les animer. Les jeunes, là, ils en font des activités.
C'est pas emmerdant.
Ils ont toujours quelque chose à faire.
Ils ont tout le temps quelque chose. Moi, s'il y en a un qui dit qu'il n'y a rien à faire, il y a rien. Puis à travers ça, bon, le soir, ils ont accès à des périodes d'études qui ne sont pas obligatoires. La période d'études obligatoire est dans le jour. Fait que le soir, quand les cours finissent, il n'y a pas de devoir.
OK.
Donc, ils ont quand même accès à pouvoir étudier pour ceux qui en désirent. Des fois, on en a qu'on va fortement leur recommander. Puis à travers ça, bon, ben, je pense à ma collègue, Mme Caron, qui a une activité qui s'appelle le cuistot. Donc, elle initie les jeunes à la cuisine. Elle va les emmener. On va régulièrement dans un organisme qui a des frigos communautaires faire des batchs de pâtes, des batchs de sauce pour remplir les frigos. Là, d'ailleurs, on se prépare à faire 300 portions, là, je pense, la semaine prochaine avec nos jeunes. Fait qu'il y a toujours de quoi faire au collège des Hauts-Sommets.
Ouais. Ils participent au milieu de vie aussi, au repas. Je trouve ça franchement intéressant. Y a-tu, moi, j'ai bien de la problématique à gérer les jeux vidéo chez nous. Là.
Mm-hmm.
Y a-tu des jeux vidéo là-bas?
Y en a.
Okay.
Y en a. Y a des périodes. Les jeux vidéo, tu sais, quand je pense à la résidence, résidence B, c'est la résidence où on a les garçons plus vieux,
ouais.
Donc secondaire 3, 4, 5. On a des consoles. Ils sont dans la salle commune. L'intervenant en résidence, il est là.
Ils gèrent les consoles.
Ils gèrent ça. On a quelques ordinateurs, même chose, ça va être géré. Et nous, au niveau des appareils électroniques, ben, le soir, quand ils vont se coucher, tous les appareils électroniques doivent être remis à l'intervenant de nuit. Ils n'ont pas accès aux tablettes, ils n'ont pas accès au téléphone la nuit. S'ils veulent téléphoner à leurs parents, ils peuvent. Ils vont aller voir l'intervenant de nuit qui va lui fournir un bon vieux téléphone à fil. Puis ils vont appeler les parents. Puis ben, dans le jour, un peu même principe, lorsqu'on rentre dans chacune des classes, là, il y a comme des petites pochettes avec chacun des noms. Chacun laisse son téléphone à l'intérieur. On met une couverte par-dessus pour pas qu'ils voient les notifications arriver pendant le cours. Puis pendant le cours, il n'y a aucun téléphone
cellulaire accessible. Se concentre sur l'enseignement.
Les dortoirs, ça fonctionne comment?
C'est des chambres de 2 à 6 jeunes. C'est, comme on disait, goffilles. Puis aussi au niveau des... les résidences sont toutes sur 2 étages. Fait que normalement, les plus vieux sont en haut, les plus jeunes sont en bas. Puis on ne se cachera pas. En secondaire 1, souvent, on fait des mix. Bon, ça va être qui va être compatible ensemble. Mais on trouve toujours un mix possible. Une des choses qui est arrivée, qui est très drôle, l'année passée, je crois, on fait une visite d'admission, la fameuse visite obligatoire, puis on est dans la résidence. Puis à la fin des explications sur la résidence, mon collègue, il laisse toujours quelques minutes pour aller dans les chambres, aller voir les douches, bref, pour que les parents puissent visiter librement la résidence. Puis il y a une mère qui vient le voir un peu inquiet, qui disait « Moi, mon fils, c'est un enfant unique, puis il n'a jamais partagé, il n'a jamais eu personne dans sa chambre. » Elle dit « Moi, elle dit, je vois pas comment il pourrait être avec d'autres personnes. Je pense que je vais reculer sur l'inscription. » Fait que ça reste comme ça. Il change de local pour la visite. Mon collègue est complètement en avant. La mère reste en arrière. Le petit gars pique une course pour aller rejoindre mon collègue. Il tire sur la main. Il dit « Moi, il dit monsieur, il dit, j'aimerais vraiment ça avoir des amis dans ma chambre. »
Oh mon Dieu, la perception, hein? Ah oui, c'est
bien
drôle.
Là, il a dit, ben, je pense qu'il faudrait que tu parles un petit peu avec ta mère. Là.
Mais souvent, les parents vont livrer leur propre peur.
Ben oui,
ils
c'est
vont
ça.
Utiliser leur enfant pour dire, ouais, c'est un enfant unique. Là.
Il ne peut-être pas
le
ça.
Le parent veut avoir sa chambre à lui tout seul. Ouais. Il ne veut pas être avec d'autres parents. Donc, il va dire, ouais, mon fils, il ne voudrait pas non plus être avec d'autres enfants. Là.
C'est spécial, pareil. Oh,
ouais, c'est spécial.
Hein? Oui. Il y a quelqu'un qui nous dit au 88-971-1021, pour la rive sud Saint-Lambert, est-ce qu'on est éligible? Ça me parle tellement. J'ai comme envie d'élargir la question. Y a-t-il des limites où vous acceptez pas quelqu'un géographiquement?
Aucune limite. Dans le fond, faut que le jeune puisse être scolarisé au Québec au niveau citoyenneté et tout. Mais sinon, il n'y a aucune limite. En ce moment, j'ai un jeune de Sept-Îles. J'ai un jeune de Saint-Bruno de Montarville.
Okay.
J'ai un jeune qui vient de Gatineau. En ce moment, on a des jeunes qui proviennent, si je me souviens bien, de 36 municipalités différentes.
Puis comment ça fonctionne? On va-tu les porter le dimanche soir?
En fait, ils arrivent le dimanche soir.
Okay.
On a un service d'autobus qui part de Québec. Fait qu'il faut minimalement rendre le jeune à Québec. Là, d'ailleurs, on a un point de chute pas loin d'ici. Donc, à partir de là, ils sont emmenés jusqu'au collège. Ils arrivent le dimanche et ils vont repartir le vendredi après-midi ou le jeudi après-midi si des fois, on s'ajuste en fonction des journées pédagogiques.
Puis vous les ramenez à Québec.
On les ramène à Québec. Il y a une entraide incroyable entre nos parents aussi. Je pense à mon jeune qui vient de Gatineau. C'est compliqué pour lui de retourner à Gatineau à chaque fin de semaine. Il dort chez un de ses amis. Les parents, ils ont pris une entente ensemble. Fait que quand la fin de semaine, c'est une fin de semaine de deux jours, il va chez son ami pour la fin de semaine. Quand c'est une fin de semaine longue, il retourne dans la région
Gatineau.
De Gatineau.
Okay.
Fait que, il y a vraiment... ça, c'est quelque chose que je souligne. T'sais, les parents du Collège du Sommet, ils se sont même créés un groupe pour s'entraider. C'est vraiment magnifique, là, l'effet de communauté que ça l'emmène.
Ils doivent se partager des trucs, veux pas. T'sais, quand tu rencontres un autre parent qui a que son enfant a un peu les mêmes défis que le tien, j'imagine que à un moment donné, il y a un échange naturel qui se fait aussi, là.
Ouais. Ben oui, absolument. Ben, les gens sont solidaires, ils s'échangent des trucs, des services. Justement, on fait un lift, on a une équipe de basket. Bon, ben, s'il y a un parent qui va à la game de basket, ben, ça se peut qu'il ramène le jeune d'un autre. T'sais, bref, tout le monde s'entraide là, dans cette situation.
La nourriture, comment ça fonctionne? Bon, on t'a parlé tout à l'heure qu'on faisait des batchs de spaghettis et tout ça, mais est-ce que c'est eux autres qui s'occupent de leur propre déjeuner?
Non, on a un service de cafétéria qui fait les trois repas principaux par jour, donc déjeuner, dîner, souper. D'ailleurs, on mange extrêmement bien. Moi, je prends énormément de poids depuis que je travaille là-bas. Il faut que je contrôle ça un petit peu. Mais bref, à tous les repas, ils ont deux choix. Au déjeuner, tu as deux choix. Au dîner, tu as deux choix. Au souper, tu as deux choix. Nous aussi, ça nous donne beaucoup d'impact sur les jeunes qui ont des troubles alimentaires. Parce que si tu n'as pas mangé, on le sait.
Exact.
C'est sûr que tu arrives dans la classe avec un repas dans l'estomac. Puis un jeune qui a l'estomac plein est beaucoup plus enclin à avoir des nouveaux apprentissages. Donc, ça nous permet là-dessus. Après ça, ben dans chaque résidence, ils ont des frigos. Ils peuvent emmener des collations de la maison. Les collations humides, nous qu'on appelle, là, tout ce qui est yogourt, tout ce qui est plus à risque de dégâts, ben ils les mangent dans le salon pour que s'il y a un dégât, on s'en rende compte. Puis une barre tente, ben ça, ils peuvent avoir ça dans la chambre, avoir quelques collations. Okay. Là, ça, il n'y a aucun problème.
Mais j'imagine que quand ils arrivent en secondaire 1, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Puis très vite, ils apprennent l'autonomie au collège. Là.
Énormément, ben c'est sûr et certain. Puis là, tu sais, ça... Quelque chose qui est formidable, c'est qu'on a le programme aussi de père aidant. Donc, quand les jeunes rentrent, ben on peut le jumeler. Si on voit qu'il y a certaines difficultés, on va le jumeler, pas nécessairement avec un intervenant, on peut le jumeler avec un plus vieux. Hey, lui, il est en secondaire 1, toi, tu es en secondaire 2, tu as vécu ce qu'il a vécu, il va être dans ta chambre cette année.
Je comprends.
Tu sais, fait que justement, les jeunes s'entraident comme ça. Puis sinon, ben c'est sûr et certain que autant au niveau pédagogique que service aux élèves, il y a possibilité de demander des mesures d'appui ou des mesures de soutien supplémentaires. Si, admettons, je sais pas, le jeune prendre la douche à la maison, c'est un peu plus compliqué. Il y a possibilité que la travailleuse sociale ou l'intervenant en résidence, ben, il s'assure que la douche est prise à chaque jour. Mmh.
Je comprends. Comment ça coûte tout ça quand je veux envoyer mes enfants au Collège des Hauts-Sommets? Bon, c'est un endroit où mes enfants peuvent dormir en semaine, puis par la suite, la fin de semaine, vous partez de Saint-Tite-des-Caps et vous les ramenez ici à Québec sur un point de chute qui est déterminé d'avance. Il y a des frais associés à ça? C'est quoi? C'est 50 000 piastres, 100 000 piastres par année?
Non, on n'est pas, on n'est pas à Harvard encore. Vraiment, c'est un niveau-là, on parle au niveau des frais. C'est variable parce qu'il y a des choses qui changent là, justement au niveau des suivis, des appuis. On parle entre 11 000 et 15 000 $ par année scolaire.
Par année.
Et à ça, ben là-dessus, bon, les frais en résidence, ça passe un peu comme un frais de service de garde au niveau du rapport d'impôt. Donc, jusqu'à 16 ans, les parents peuvent le mettre sur le rapport d'impôt. Puis, c'est ça. Ça joue entre 11 et 15 en fonction de c'est quoi le cours d'option que le jeune a choisi, c'est quoi l'appui pédagogique qu'il va recevoir, est-ce qu'il va avoir un encadrement en dehors des cours. Mais vraiment, là, on est là-dessus.
Y a-t-il une possibilité? Tu sais, exemple, je suis un parent qui n'a pas nécessairement les plus grands des moyens pour envoyer mon jeune, mais mon jeune a vraiment besoin de vos services. Y a-t-il moyen de moyenner d'une certaine façon? Tu sais, je veux qu'on en parle. Je sais que vous avez la fondation. Est-ce que ça peut venir aider à ce niveau-là? Comment vous fonctionnez dans ce temps-là? Parce que c'est sûr que ça arrive. Là, on entend tellement parler du portefeuille qui roche, mettons, dans les dernières années.
Absolument. Ben, en fait, ben, écoute, c'est exactement mon travail. Là-dessus, il faut savoir qu'à chaque année, on remet des bourses d'études pour que les jeunes puissent venir chez nous. Donc, il y a possibilité de faire une demande de bourse à la Fondation. Malheureusement, la Fondation n'a pas nécessairement les moyens de couvrir 100% des frais de chacun des jeunes, mais on fait toujours au maximum de nos moyens. Puis aussi, ben, avec le service de comptabilité, c'est pas en un seul paiement là, qu'on le demande. Il y a possibilité de prendre un entente de paiement sur l'année pour être en mesure là, que ça fitte dans le budget. Mais oui, absolument, on a un programme de bourse là, cette année. Vous voyez, c'est plus de 50 000 $ qui ont été remis en bourse d'études. Là.
Le taux de diplomation que vous avez au collège des Hauts-Sommets?
On est autour de 90 %. Ça varie d'une année à l'autre, bien sûr. Ça aussi, on en est très fiers. Puis, en fait, ce qui nous rend le plus fiers là-dedans, c'est que malgré l'ensemble des défis qu'on va rencontrer au cours des 5 années où ce que le jeune est avec nous, ce qu'on lui délivre, c'est un diplôme d'études secondaires valide du ministère. C'est pas un parcours alternatif. Ça l'ouvre les mêmes portes que les autres. J'ai des jeunes qui font leur maths forte, j'ai des jeunes qui font leur science forte.
Parce que c'est le parcours d'éducation que tous les autres jeunes au Québec font finalement.
On offre les mêmes cours que n'importe quelle autre école secondaire au Québec.
C'est capoté. Hein.
Les activités parascolaires, là, j'ai vu qu'il y en avait plein. Là. Moi, c'est sûr et certain que je vois le hockey qui m'intéresse beaucoup pour mes gars parce que quand ils vont voir ça, ils vont dire c'est ça qu'on prend. Vous avez du deck hockey aussi. Il y a du ski qui est possible dans ce secteur où c'est possible de faire du ski aussi. Comment ça se passe?
Oui, en fait, chez nous, tous les jeunes sont obligés de choisir une option. Il n'y a pas, souvent dans les écoles secondaires, on a le parcours régulier, on a le parcours avec option. Nous autres, ils ont tous une option, c'est obligatoire. Et tu ne peux pas être sorti de ton option à cause de ton rendement. Il n'y a, pas de notion de performance pédagogique ou de performance dans ton sport ou dans ton option, là, parce que nos options ne sont pas tous des sports. L'option la plus populaire, bien sûr, c'est l'option ski. Avec notre proximité avec le Mont-Saint-Anne, c'est sûr que ça, c'est bien, bien, bien trippant pour les jeunes. On a l'option cuisine qui est très populaire. On a l'option hors plastique. On a des jeunes qui sont en multisport. Donc ça, moi, c'est l'option qui me fait tripper parce qu'à chaque semaine, ils font un sport différent. Ça, c'est complètement malade.
Il se développe là, en tant qu'athlète. Là, quand tu fais un sport différent chaque semaine, c'est clair et net que ça va l'améliorer.
Oui, absolument. Puis ça, le jeune développe un paquet de nouvelles passions.
C'est ça, j'allais dire, au-delà du sport, c'est que t'es comme... Je trouve qu'obligé, ça sonne comme si on te coince, mais c'est qu'on t'offre l'opportunité, en plus de faire tes études, de faire autre chose. T'sais, dans un cadre régulier, là, soit par manque de moyens financiers, mais t'as des jeunes qui ont comme pas de passion sur le côté. Là, ils vont à l'école, puis la fête semaine, sont avec leurs amis, mais ils ne développent pas autre chose. Je trouve ça intéressant, ça.
Au secondaire, dans notre temps, il y avait l'option là, éducation physique, mais banc du gymnase.
Oui, moi, j'étais tout le temps là.
les filles, c'était comme l'option qu'ils choisissaient. C'était mon spot. Ils étaient 10 puis ils ne voulaient pas jouer au hockey parce qu'on était trop intense.
C'est ça, exact.
Ça n'existe pas au collège.
Alors, ben, tu sais, c'est sûr et certain qu'on a le. Comment je pourrais dire? Dans les cours d'éducation physique, tu sais, c'est pas tout le monde qui est sportif au même niveau.
Ouais.
Mais tu sais, quelqu'un qui veut faire du ski chez nous, là, il va à tous les mardis après-midi, il est en ski en cours d'option. Nous, les mercredis après-midi, il n'y a jamais d'école. Donc, à tous les mercredis, il y a une bus qui part au ski en après-midi.
Ouais.
Puis on est en ski un à deux soirs semaine en plus.
Ah, les enfants doivent détester ça au possible.
Ah oui, ça a l'air tellement plate.
Ça a l'air plate.
je suis juste curieuse parce que je veux qu'on revienne aux résidences parce que tantôt, Benoît, t'as dit quelque chose qui a comme un peu titillé mon oreille. Là. T'as dit que vous alliez adapter éventuellement des chambres pour les jeunes qui ont un trouble de l'autisme, par exemple. C'est quoi le type d'adaptation que ça prend? Ça a l'air niaiseux comme question. Mais...
Oui, ben, en fait, en partant, tu sais, on se ramène à l'adolescence. Est-ce qu'on avait tous la chambre la mieux rangée du coin. C'est sûr que nous, on fait une petite surveillance là-dessus. Mais en partant, ça va être des endroits dédiés. Donc, ça, c'est études. Ça, c'est dormir. Ça, c'est ton linge. Après ça, bon, ben, est-ce que un ajustement au niveau des couleurs de mur pour avoir quelque chose de plus apaisant? La possibilité d'avoir accès à des couvertures lourdes.
OK, pour l'anxiété, pour OK.
Après ça, je sais qu'il y a certaines horloges, justement, qu'on peut programmer où ce qu'il peut voir, bon, OK, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine chose qui s'en vient. C'est un paquet de petites choses comme ça qu'on tente là, de mettre en place en ce moment là, avec la Fondation. Ouais.
Oui, mais c'est ça, exact. Ce que vous faites à la Fondation, c'est que vous ramassez des fonds constamment pour aider ces jeunes-là.
Oui, absolument. En fait, c'est d'aider les familles, c'est d'aider le collège. Donc, tantôt, je parlais du programme de bourse. Cette année, on a acheté aussi du matériel sportif. On appuie l'équipe de basket. On va aller aider la vie étudiante, les services aux élèves. Moi, à partir du moment... En fait, c'est pas compliqué. Le collège, il y a un besoin. Il rentre dans mon bureau. On monte le projet ensemble. Puis moi, ben, après ça, je me mets à la recherche du financement pour ces projets-là.
Le skatepark vient, entre autres, de la Fondation des Hauts Sommets. Le parc informatique aussi que vous avez pour les élèves vient de là. Les salons des étudiants, salles de musique, Desjardins. Non, ça, vous avez du stock en tabarouette. Là. Il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble pas mal plus à Poudlard.
Je suis d'accord. Ben oui, c'est magique.
Ma fille, elle l'appelle Poudlard. Moi, ma fille n'est pas encore au secondaire, mais des fois, elle m'accompagne au travail. Puis ça, c'est le parallèle qu'elle m'a fait. Là, oui.
Peux-tu nous parler, Benoît, d'une soirée au sommet?
Oui, absolument. Une soirée au sommet, c'est dans le fond, c'est un événement qui a lieu jeudi la semaine prochaine. Il reste très, très peu de billets, mais je vous en parle parce que sérieusement, c'est l'occasion de venir découvrir la cause. C'est la grosse soirée de la Fondation. C'est là qu'on ramasse le plus de sous dans l'année. Donc, on peut faire un don. On peut acheter un billet sur le site là, du collège. Ça va se passer au Manoir Montmorency le 20 mars prochain en mode cocktail dînatoire. On a un menu inédit pour cette soirée-là que l'équipe nous a contacté. Et moi, le plus intéressant, c'est la première partie. Il y a l'exposition Les Persévérants. On va avoir une quinzaine de jeunes du collège qui vont être là pour vous parler, eux, c'est quoi qui les fait continuer leurs études. C'est quoi qui les motive à continuer. Et là, on va aller un peu partout, autant de la mission humanitaire au Guatemala qu'on est en train de monter que l'accompagnement personnalisé.
Mission humanitaire au Guatemala, vous amenez les jeunes là-bas?
Oui, on s'en va là en 2026. On s'en va avec une vingtaine de jeunes au Guatemala. On va faire du bénévolat dans un orphelinat là-bas.
Moi, j'espère que tu sais, Benoît, que si jamais je fais plus de radio, je cherche un emploi
au collège.
Non, mais pas comme étudiant, mais je me dis comme écoute, il faut que je sois quelque part là-dedans. Là.
Absolument. Ben, on pourra partir une radio étudiante, peut-être.
Ben, regarde, oui, je vais être là. Parfait. Je vais enseigner la radio sans problème.
Parfait. Benoît, pour les parents qui t'écoutent jaser depuis quelques minutes du Collège des Hauts Sommets, visiblement, ça semble beaucoup les intéresser. Là. Ils font quoi pour s'informer? Ils vont directement sur votre site web, collegedeshautssommets.com?
Oui, exactement. Il va y avoir une section demande d'information. On remplit le petit formulaire. Il y a aussi le numéro de téléphone, bien sûr, là, qu'ils peuvent nous appeler directement s'ils veulent des informations. Ça va nous faire plaisir de répondre.
Bien, nous autres, ça nous a fait un plaisir de te recevoir.
Vraiment.
Merci à vous.
Puis, salutations à toute la gang des Hauts Sommets. Puis je salue les parents là, qui t'écoute parler avec une grande attention du collège où vont leurs enfants. Je trouve ça le fun. Le monde est petit, pareil. Hein?
Et ça n'a pas de bon sens.
Vraiment. Merci, Benoît.
Merci.
11h07, on s'arrête. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88 971 1021.
Le tout nouveau Taos 2025 est à